France Inter.
C'est fou comme parfois le « je » parvient à dire « nous ». C'est fou comme des histoires singulières touchent à l'universel. Il y a, de temps à autre, entre les mots des uns aux autres, un drôle d'écho. Nous sommes X, nous sommes l'inconnu d'une équation. Nous construisons nos vies sur des variables inconnues. Polynômes, polymorphes, hydres à plusieurs têtes qui s'inventent plusieurs vies. Nous sommes X, être tabou, l'être sauvé de l'alphabet grec pour écrire au pluriel. Nous sommes pluriel, nous avons porté d'autres prénoms. Nous avons une seconde vie et un emblème sur le corps. Nous sommes X.
En marge. Julia Foyce sur France Inter.
Nous ne ressemblons à personne.
Et c'est bien là notre problème. Nous sommes à la recherche de nos traits perdus, de nos fratries,
de nos patries.
Nous sommes aussi en guerre, pris dans un conflit de loyauté
entre la recherche de nos origines
et notre adoption.
Notre croix est fardeau.
Notre croix est cadeau.
Notre mère nous a fait un cadeau.
Nous sommes celui de nos parents.
Adoptés et adoptants.
Nous sommes les extraterrestres. Arrivés sur Terre dans un dossier classé X.
Une lettre sur le front.
Un point d'interrogation.
Comme des super-héros, nous avons une identité secrète et portons des masques.
Nos faciès et nos couleurs de peau peuvent tromper.
Nous ne sommes pas ce que vous voyez.
Nous ne connaissons pas notre lignée.
Alors nous voyons le monde en fractal.
Telles les branches des arbres, cherchant leurs racines dans le ciel,
formant une géométrie de la famille.
Branchés sur tous les univers, nous créons du lien.
Nous avons toujours 6 ans.
Et enchaînons manquant.
Bonsoir, bienvenue Karine Filliot et Caroline Beaurepaire.
Bonsoir.
Karine, vous êtes la créatrice du podcast dont on vient d'entendre un extrait, Nos chaînons invisibles. Et Caroline, vous y racontez votre histoire. Ce qu'on vient d'entendre est le manifeste et ce « Nous sommes X » est un hashtag. Tout ça sonne comme un cri de ralliement, c'est un peu ça?
Oui, c'est l'idée, c'est ouais. Que pendant longtemps, on ne sait pas que les autres X existent, et puis un jour, on les rencontre, et on comprend effectivement que ce qu'on a porté individuellement, en fait, est une forme de combat, de cri collectif, d'où se manifeste. Ouais.
Et ça change quoi, de voir qu'il y a d'autres extraterrestres, Caroline Beaurepaire?
On se sent moins seul.
Ouais. Et donc on se sent plus fort?
Plus fort.
Prêt à faire bouger les choses, c'est-à-dire que l'intime devient éminemment politique à partir du moment où le « je » est un « nous ». C'est ça l'idée ?
C'est l'idée, et c'est vrai qu'il y a la volonté de dire ce X qu'on a souvent tué. Donc ce X, ce X qu'on porte dès la naissance, ouais. Voilà, et pendant les 3 premiers mois de sa vie finalement, puisque ensuite souvent on est adopté. Et donc il y a cette idée d'interroger ce X qui est aujourd'hui peu connu.
De le faire parler. Aujourd'hui, 200 à 500 enfants, c'est pas bien, naissent sous X chaque année en France. À quelles conditions peuvent-ils avoir accès à leurs origines? Que dit la loi, Karine?
Alors la loi donc d'accouchement sous le secret donc qui a eu des évolutions, mais il y a déjà plus de 20 ans aujourd'hui, une femme donc peut accoucher dans n'importe quelle maternité en France donc sous le secret, elle n'est pas obligée de donner des éléments identifiants. Okay. Donc depuis 2002, on lui propose parfois de laisser sous un pli des éléments.
Pas toujours. On sait pas.
Il y a pas de transparence par rapport à ça, donc c'est compliqué. Chaque situation est difficile. Imaginez d'une maternité à l'autre, d'une équipe médicale à l'autre, c'est différent. Enfin, ça peut être différent à chaque fois. Donc il y a cette possibilité de laisser un pli cacheté. Dans ce pli, c'est pas forcément l'identité. Ça peut être aussi un doudou, une lettre. Et c'est toute la question en fait aujourd'hui que les X soulèvent, notamment à travers un collectif, le collectif des nés sous X d'ici et d'ailleurs, qui interroge cette loi qui a peut évoluer. Il ne reste plus que les X aujourd'hui qui, à leur majorité, ne peuvent pas connaître du coup l'identité du coup de leurs parents de naissance. Et donc voilà, aujourd'hui, il y a cette possibilité donc pour la mère qui accouche sous secret de laisser aussi potentiellement son anonymat, son identité. Mais c'est pas toujours le cas et c'est pas du tout une obligation. Et pour les personnes en recherche, donc le parcours tel qu'on le raconte d'ailleurs dans le podcast, c'est d'abord de consulter son dossier auprès de l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, anciennement la DAS. Et c'est le premier pas. Et ensuite, c'est de saisir le CNAOP, le Conseil national pour l'accès à ses origines personnelles. Moi, je l'ai saisi il y a 14 mois et j'attends encore la réponse. Et quelle sera la réponse? Je n'en sais rien. C'est chargé de mission avec les éléments qu'il y a dans le dossier. Parfois, dans les dossiers, il y a l'identité. Parfois, des numéros de sécu. Et ils vont essayer de retrouver, de contacter la mère de naissance des années après. Et dans des conditions et des modalités qui nous sont, pour le coup, inconnues.
Vous nous le direz, mais ce que vous contestez, ce n'est pas forcément le principe, mais c'est le cadre dans lequel c'est fait. On y reviendra. Ce voile sur votre identité, vous avez commencé l'une et l'autre à le lever, vous nous raconterez. Mais d'abord, prenez ce miroir, s'il vous plaît, Caroline. Prenez le temps de vous regarder. Dites-nous, qu'est-ce que vous voyez? Qui vous voyez? Qu'est-ce que vous avez envie de raconter?
Je rigole parce que ça rejoint avec ce que j'ai dit sur le podcast. Moi, je vois des grands cheveux frisés qui m'ont posé beaucoup de questions pendant mon adolescence et du coup qui m'ont beaucoup demandé d'où venaient en fait ces cheveux frisés et volumineux. Est-ce que c'était le fruit d'un métissage ou pas? Et ça m'a beaucoup questionnée. Donc voilà ce que je vois.
Très belle chevelure.
Merci.
Karine Figuot. C'est toute la question de savoir ce que je vois, parce que c'est le rapport au miroir, c'est toujours un peu difficile, en fait, parce qu'il y a cette question de d'où viennent ces traits de visage que moi, je peux interpréter d'une certaine manière, ou pas, d'ailleurs, en fait. Donc c'est la grande inconnue, d'où vient ce visage.
En marge. Julia Foyce sur France Inter.
Tu vois, il y a marqué le nom de la mère biologique, X. Est-ce le premier enfant qu'elle abandonne? Oui.
J'avais 16 ans. L'hôpital me passe une échographie et là, on me dit que je suis enceinte de 7 mois.
Je suis née à Paris, où on m'a enlevée à ma mère de naissance. Je ne pense pas une seconde qu'elle ait pu oublier cet enfant qu'elle a abandonné, qu'elle a laissé.
Tu peux très bien avoir une pensée à un moment ou un souvenir à un moment qui va forcément te rappeler ça.
Votre service d'aide sociale à l'enfance nous a accordé une suite favorable à notre demande d'adoption.
On va sur place, ils nous présentent une photo qu'on tenait serrée, puis ensuite première rencontre à la pouponnière.
Je ne me souviens pas d'un moment précis où mes parents m'ont dit « Paula, c'est toi, faut qu'on parle, t'as été adoptée et voilà ce que ça implique ».
Ma crainte, c'était que, au cours d'une dispute, un de ses enfants te dise « ton frère, mais c'est même pas ton frère ».
Je ris parce que j'étais en train de me dire « qu'est-ce que ça me ferait d'entendre ma propre mère ?» Sachant qu'elle est folle comme un lapin.
C'est la question que je me pose.
C'est votre mère qu'on entend, Karine. Monique, personnage haut en couleur, assez complexe, un drôle de mélange de grande pudeur et de grande gueule aussi. Comment elle était avec vous quand vous étiez petite? Quel genre de mère c'était?
Une mère aimante, ça c'est certain. Enfin, je veux dire, j'ai grandi dans une famille, ma mère était prof, donc elle est ce côté aussi un peu enseignante dans la pédagogie beaucoup. Mais c'est surtout une mère aimante.
Alors elle a été prof, votre père éducateur spécialisé. Vous grandissez à Marseille, la maison sent bon le poulet rôti du dimanche et les sardines grillées. Il y a un grand frère de quelques années, votre aîné, Joël, et dans le document qu'on vous a envoyé pour préparer cette émission, entre parenthèses, juste à côté de son prénom, vous ajouter légitime. Être né sous X, est-ce que c'est aussi grandir, quoi qu'il arrive, avec cette question de la légitimité?
Non, pas forcément, mais on grandit, on a une famille, donc c'est nos parents, c'est mon frère, c'est pas la question en fait. Elle arrive pas tout de suite en tout cas.
Et pourtant, vous prenez à peine de le souligner que lui est légitime.
Mais légitime dans le sens administratif, c'était juste pour signaler que c'était pas un, 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 Parce que je raconte dans le podcast que mes parents donc avaient déjà mon frère, mm-hmm. et qu'à l'époque, il était quasiment impossible d'adopter un enfant quand on avait un enfant légitime, en fait. Et donc, voilà, et je le précise juste parce que c'est pas un frère que j'ai retrouvé, c'est pas un demi-frère, voilà, c'est juste ça. Alors c'est pas un autre frère qui a été adopté lui aussi, voilà.
Et c'est autour de lui qu'une partie du secret va se lever. Vous êtes né le 31 janvier 77 à la maternité de la Belle de Mai, c'est marqué sur le carnet de santé. À part ça, petite, vous savez sans savoir, et c'est parce que Joël rentre à la maternelle, pas parce que vous allez rentrer, pardon, dans la maternelle de Joël, que tout à coup votre mère se dit, faut lui parler.
C'est ça.
C'est ça. Pourquoi ? Ouais.
Donc moi je suis née en 77 et c'était quand même encore assez rare l'adoption. C'était pas forcément accepté chez les grands-parents, c'était pas commun en fait. Et donc du coup, ma mère, la première chose, parce que je suis arrivée du jour au lendemain en fait.
Ce qu'elle raconte dans le podcast, ça paraît assez fou.
Un coup de fil, bonjour, depuis ce matin, vous avez une petite fille, vous venez la chercher quand vous voulez. Donc c'est quand même ça. Donc du coup, la première chose c'était que mon frère, évidemment content, il savait qu'il y avait cette démarche, donc il allait dire à ses copains et ses copines, j'ai une sœur, et potentiellement on n'allait pas le croire, que du jour au lendemain, voilà, donc ma mère voulait effectivement que sa maîtresse soit au courant, et donc à cette époque-là, la maîtresse s'est dit, on va organiser un petit goûter, et ça permettra aux enfants, donc de la classe d'âge de mon frère, qui avait à peu près 6 ans, de parler de cette question de l'adoption. Donc toute la classe d'âge de mon frère, quand je suis née, du coup, savait que j'avais été adoptée. Mmh. Et du coup, son inquiétude, c'était de se dire, c'est vrai que s'il y a une chamaillerie ou quelque chose, si je m'entends dire que mon frère, c'est pas mon frère, elle voulait pas que je l'apprenne de cette manière-là.
Donc voilà. Elle veut pas et en même temps elle n'arrive pas à vous le dire. C'est là où elle est complexe, votre mère. C'est-à-dire qu'elle est très sûre d'elle sur le fait qu'il faut vous le dire, mais par contre ce sera pas elle.
Elle refile le truc à mon père.
Et pourquoi, à votre avis ?
Je sais pas. Je pense que pour elle, j'ai toujours été sa fille en fait. Mmh. Je sais pas, mettre. Enfin, ça a été difficile.
Mettre ces mots-là.
Ouais, je pense.
Sur votre lien, ça allait les. Elle avait peur que ça les abîme ou que ça casse quelque chose entre
je
vous.
Je sais pas. C'est difficile de parler à sa place, mais. En tout cas, toujours est-il que elle a pas réussi à trouver la manière à ce moment-là. Voilà.
Votre père l'a fait et. Pendant un certain temps.
Et moi, je m'en suis jamais souvenu.
Voilà, ça a été une.
2 ans et demi, ouais.
Une non-discussion, un non-événement pendant un certain nombre d'années. Allez hop, autoroute A7 et puis A6, direction Paris, car pendant ce temps, à 800 km au nord de chez vous, Karine, la petite Caroline, grandit avec RTL, France Gall, Daniel Balavoine à fond les ballons. Mais honnêtement, celui qui fait vraiment monter le son à la maison, c'est lui.
Sur les filles, parc sur le Nil, je suis dans ta vie, je suis dans tes bras, Alexandra, Alexandrie.
Votre mère était une grande fan de Claude François, Caroline. Jusqu'à quel point ?
Jusqu'à tel point qu'elle avait des photos de Claude François dans son salon et que les gens qui venaient pensaient que c'était mon petit frère ou mon grand frère.
Votre mère, Marie-France, est fonctionnaire à l'éducation nationale. Elle est très extravertie, tout le contraire de votre père, Michel, timide, introverti et docteur en météorologie. C'est parce que ça se pose là. Hein. Vous êtes leur fille unique et l'enfance auprès d'eux à la saveur du pain tartiné au Nesquik. Ça parle à tout le monde. En revanche, le saucisson sec plongé dans la soupe.
Exactement, manger la soupe. Ça, ça fonctionnait parce que j'en mangeais.
Alors, ça fonctionne, mais il y a quand même un accroc dans le tableau. Vos cheveux, vous en parliez en début d'émission, votre peau. Votre mère ne sait pas trop quoi faire avec cette donnée capillaire. Donc, qu'est-ce qu'elle fait ?
Eh bien, elle coupe tout. Enfin, surtout les coiffeurs coupent tout. Donc, j'avais la boule à zéro. Voilà, j'avais peut-être 2 cm de cheveux sur le crâne, qui fait que quand on est toute petite fille, ça complexe.
C'est dur.
Ouais. Ouais, c'est un peu dur. Et du coup, mon rêve étant petite, c'était d'avoir les cheveux longs.
Et c'est ce qui fait qu'à 5 ans, vous leur posez the big question, la grande question ?
Exactement, je m'en souviendrai peut-être toute ma vie. C'est dans la cuisine, avec mon père et ma mère. On est en train de déjeuner, donc je leur pose la question toute naturelle. Mais pourquoi moi je suis noire et vous êtes blanc ? Et je vois ma mère tomber en larmes et m'expliquer avec ses mots que j'avais été adoptée. Je me souviens que ça m'a absolument rien fait sur le coup. Vraiment, pas de tristesse, pas de souffrance, que pour moi c'était mes parents, je crois que... Ok, ils m'ont dit ça. Et par contre, c'est revenu bien plus tard, à l'âge de l'adolescence.
Bien après. Pendant de nombreuses années, vous aurez juste ce carnet de santé avec vous, une date de naissance, 27 août 83, une maternité, celle de Clamart. Et pour le reste, longtemps, vous ferez donc avec, vous composerez, vous aussi composez avec le secret. Vous avez essayé, Karine Fillot, mais adolescente, les premières fissures au mur, là, ça commence à craquer et bientôt, vous allez plonger. Le Grand Bleu, Éric Serra, Jean-Marc Barre, film culte pour toute une génération. Karine, on est au tout début des années 90. Elle se passe comment, votre adolescence ?
Elle se passe. Mais je pense comme souvent l'adolescence, en fait.
Période compliquée.
On subit un peu, puis après, moi, très vite, je pense que je me trouve une passion qui me va bien. Qui est la radio, en fait. Ouais. Je commence quand je suis au lycée, je commence la radio. Et je pense que par ce prisme-là, c'est aussi une manière d'interagir avec les gens. Voilà, très vite, je vais pas dire que je me réfugie là-dedans, mais oui, il y a sans doute un peu de ça.
Mais c'est à cette période-là aussi que vous mettez à fouiller dans les dossiers de vos parents, dès qu'ils ont le dos tourné. Parce que leur poser des questions,
totalement.
C'était impossible.
Ouais, c'est difficile. C'est difficile parce qu'en fait, je pense qu'on a, pendant longtemps, on était sur un quiproquo, quoi, quelque part. C'est-à-dire que à partir du moment où ils me l'avaient dit, bah, je le savais, mais est-ce que ça suffit de le savoir? Et du coup, je pense que ça a créé une situation un peu de tabou. Et pour discuter avec pas mal d'autres personnes nées sous X, on retrouve quand même souvent ce schéma-là.
Adolescente, pour vous, ça se corse à la maison, Caroline, les rapports se tendent et très fort avec votre mère. Et c'est à ce moment-là que vous aussi, vous vous mettez à chercher.
Exactement, dans les placards, quand ils partent.
Pareil, même
pareil,
chose.
Exactement. Je trouve une pochette cartonnée avec des élastiques, avec surtout marqué DAS. Et donc là, je me presse d'ouvrir cette pochette. Et je tombe sur des photos de moi bébé. Et donc, c'est la première fois que je me vois bébé, puisque les premières photos que j'ai officiellement sont les photos de moi à l'arrivée dans la maison, donc à savoir à 4 mois et demi. Donc là, j'ai des photos de moi en la pouponnière ou à l'hôpital. Incroyable. Enfin, pour moi, c'était un choc de voir ces photos. Ouais. Et mes parents ne me les avaient jamais montrées. Donc je vois aussi le bulletin d'adoption, je vois plusieurs documents administratifs. Et puis, je referme le dossier, je le remets à sa place et j'en parle jamais à mes parents.
Comme Karine, vous n'osez pas leur en parler, peur de leur faire du mal, de les blesser, d'ouvrir des dossiers qui seraient peut-être trop douloureux, trop conflictuels ou que sais-je. Vous vous dites que peut-être plus tard, un jour, après, vous monterez sur scène, vous chanterez, vous danserez, là on vous verra, là on vous aimera mieux, vous serez acclamé.
I guess now it's time. For me to give up, I feel it's time. Got a picture of you beside me. Got your lipstick marks still on your coffee cup.
On rit, mais c'était quand même complètement naze. Pardon. Mais je veux dire, j'étais dedans aussi, hein, les boys bands, j'adorais. Évidemment, mais si je suis qu'avec leur cul, ça passe pas très bien le cap des années. Donc les Take That, l'un des fameux boys bands de l'époque, c'était eux qui cartonnaient, des groupes de mecs hyper musclés, hyper imberbes, hyper huilés. Vous aimez comme toutes les ados de l'époque, Caroline. Et comment vous vous situez dans le groupe avec les garçons, avec les filles?
Du coup, hyper compliqué pour moi de créer, de nourrir des amitiés ou des relations amoureuses. Mmh. C'était compliqué jusqu'à très tard, en fait, cette peur de l'engagement, cette peur d'aimer, cette peur elle était très très présente. C'est comme si j'avais peur, j'avais tout simplement peur, je pense qu'on m'abandonne. J'avais peur d'aimer. Et c'est quelque chose qui était vraiment très très présent.
Vous aussi, vous le dites dans le podcast, où il y a un certain nombre de moments, Karine, où vous vous sentez pas tout à fait à votre place, un peu différente, et vous savez pas trop pourquoi. En attendant, vous foncez, la radio, c'est ce que vous disiez, ça, c'est le rêve de votre vie. Alors le bac en poche, vous postulez pour une toute jeune radio du service public, qu'on appelle le MOUV à l'époque, vous êtes prise, vous y resterez 14 ans. Or, c'est justement dans le cadre d'échanges entre radio jeunes francophones que pour la première fois, vous mettez le pied à Alger. Qu'est-ce qui se passe pour vous là-bas ?
Quand j'arrive, je découvre un pays dont je ne sais pas à ce moment-là. Je ne sais pas encore que j'ai des origines algériennes et kabyles.
Un test ADN qui, bien des années après, vous le dira.
Alors, je le saurai dans le dossier, puisque ça va déclencher mon envie d'aller voir mon dossier. Donc je le saurai très peu de temps après. Je me doutais que j'avais des origines du Maghreb, mais je n'avais pas forcément identifié l'Algérie.
Et c'est-à-dire qu'il y a une forme de reconnaissance physique, il y a des traits,
c'est ça, c'est ce qu'on m'a dit, en fait. Moi, quand j'ai grandi, et même à Paris, il y a comme ça des moments où on parle en arabe et je comprends pas. Et d'ailleurs, je me souviens dans un bus un jour, la première fois, je réalise qu'on projette sur moi une identité qui est pas la mienne, en fait. Donc il y a ça. Et là, je vais le retrouver. Évidemment, on va me parler, et donc je vais très vite, ils vont comprendre que ni je parle arabe ni l'arabe dialectal, et que je suis française. Voilà. Et donc ça crée comme ça une sorte de décalage, et je comprends que j'ai un lien quand même avec ce pays, c'est indéniable. J'arrive pas bien à le saisir encore, mais oui, je le ressens.
Vous aussi, Caroline, vous allez chercher quelque chose au-delà de nos frontières. À 25 ans, en 2008, vous faites votre premier tour du monde avec votre amoureux. Le virus du voyage vous prend. Pendant 10 ans, il ne vous quittera plus. C'est seul que vous partirez 2 mois chaque année. Au fond, et aujourd'hui, est-ce que vous savez ce que vous cherchiez ?
Je crois que je cherchais ma terre d'origine, finalement, chercher d'où je venais. Je pense que comme Karine, je cherchais des ressemblances de traits, parce que c'est vrai que c'est vraiment bizarre de ressembler à personne. Et c'est vrai, pour la petite anecdote, j'étais allée au Brésil, et je crois que beaucoup de métis, c'est pour la première fois, je me suis dit, ah ça y est, il y a des gens qui me ressemblent, qui sont comme moi.
Elle voulait être métisse, c'est tendance d'être... Elle voulait être brésilienne, je veux dire, c'est tendance, quoi.
Voilà, mais en vrai, c'était toute cette recherche d'où je venais. Je pense que à chaque fois que j'arrivais sur une terre ou dans un pays, je me disais, j'essayais de ressentir en me disant, est-ce que je viens de là, est-ce que je viens de là. Mais à chaque fois, ça me disait non.
Vous voilà donc toutes les deux approchant et puis passant la trentaine avec cette question en bandoulière. Comment je fais pour savoir qui je suis si je ne sais pas d'où je viens ?
Mentalité. C'est pourquoi je trouve bien troublant que des gens se fassent insulter pour des questions d'identité. Bloqué par la timidité, il m'arrive très souvent de faire semblant d'avoir compris en sa totalité une discussion à peine écoutée. Laissez-moi être tranquille. Comme les vôtres, acceptez que je sois votre hôte, mais ne me faites pas la faute de vos idéaux, vos idées hautes, du haut desquelles je me vaux.
Sinclair, tranquille, Karine Filliot, parce qu'au début des années 2000, vous pensiez l'être ?
Tranquille ?
Ouais.
Non, peut-être j'aspirais à l'être, je sais pas.
Karine Filliot, c'est vous qui produisez ce très beau podcast en 6 épisodes, Nos Chaînons Invisibles, podcast dans lequel vous racontez avec d'autres, nés sous X, votre histoire. Caroline Beaurepaire, ce sont vos pas qu'on emprunte ce soir En Marge et sur France Inter.
France Inter, En Marge, Julia Foyce.
Matin comme tous les autres, un nouveau pari. Rechercher un peu de magie dans cette inertie morose. Clopin clopant sous la pluie, jouer le rôle de sa vie. Puis un soir le rideau tombe. C'est pareil pour tout le monde. Rester debout, mais à quel prix? Sacrifier son instinct et ses envies les plus essentielles.
Il a commencé quand, le premier jour du reste de votre vie, Caroline?
J'avais 34 ans, c'était ouais. Le 15 décembre.
Vous écoutez le 14 décembre cette chanson d'Étienne Dao en boucle parce que vous vous apprêtez à faire quoi ?
Eh bien, le lendemain, j'ai rendez-vous avec la DAS pour enfin ouvrir mon dossier.
Vous dites enfin parce que ça faisait quelque temps que vous y pensiez, accompagnée, je crois, d'une thérapeute.
Exactement. En fait, ça fait depuis l'âge de 18 ans que je pensais ouvrir ce dossier. C'est la seule possibilité pour avoir nos origines et avoir des informations sur la mère. Et donc oui, il m'a fallu du temps. Et à 33 ans, je décide de voir une thérapeute et de lui indiquer comme objectif de m'accompagner pour ouvrir ce dossier parce que j'arrivais pas à l'ouvrir. Et donc, on a réussi un an et demi.
Vous n'arrivez pas à l'ouvrir et par ailleurs, vous avez le sentiment que dans votre vie, vous tournez en rond.
Exactement.
Que ça n'avance pas et qu'il vous faut des réponses.
C'est exactement ça. Ouais. Vraiment l'impression de tourner en rond. Voilà, c'est exactement ça.
Qu'est-ce que vous allez trouver dans ce dossier ?
Alors déjà, j'allais le chercher pour trouver mes origines raciales. C'était la première priorité pour moi, parce qu'on me posait la question tous les jours d'où je venais. Donc c'était vraiment la priorité. Et en fait, finalement, je trouve pas cette identité raciale, mais je trouve le pourquoi. Pourquoi cette maman m'a abandonnée ? Et je crois que c'était la plus belle des réponses, en vrai, avec du recul. Car j'ai pu enfin mettre un mot à cet abandon, et surtout au pourquoi.
Et elle dit quoi ?
Elle explique que via des courriers de l'hôpital, des docteurs qui l'ont reçu, que déjà elle avait fait un déni de grossesse et qu'elle était dans un environnement familial très compliqué avec sa mère qui était veuve, avec sa sœur qui était gravement malade et elle était très jeune, elle avait 16 ans. Et donc tout ça mis bout à bout, voilà, c'était compliqué d'accueillir un enfant.
En fait, ce que raconte ce podcast aussi, c'est combien les réponses apaisent et permettent des dialogues qui sinon sont interrompus. Je pense par exemple à une lettre écrite, quelques lignes, écrites par votre mère adoptive. Pour le podcast, vous la lisez.
Monsieur le directeur, donc c'était au service des adoptions, votre service d'aide sociale à l'enfance nous a accordé une suite favorable à notre demande d'adoption d'un enfant en nous confiant Caroline à l'âge de 4 mois. Nous avons Caroline dans notre foyer depuis plus de 6 mois. Depuis qu'elle vit avec nous, elle a beaucoup changé. Elle s'est épanouie et a bien prospéré. Elle a trouvé ses parents et nous avons trouvé notre fille. Nous souhaitons réaliser l'adoption plénière de Caroline et nous vous demandons, monsieur le directeur, de bien vouloir œuvrer dans ce sens. Nous vous prions d'agréer, monsieur le directeur, l'expression de nos sincères salutations.
On sent en vous quelque chose qui se dénoue, quelque chose qui se met à respirer un peu mieux. Est-ce que vous avez aussi mieux compris votre mère adoptive en lisant cette lettre-là ?
Complètement. Alors c'est vrai que je viens d'une famille où on parlait peu. Où ils ont souvent, on n'avait pas les mots pour transmettre notre amour. Donc j'ai souvent pensé en plus que j'étais pas aimée par mes parents. Enfin bref. Et là, quand je vais chercher ce courrier avec ces simples mots, je sens l'amour qu'elle avait pour moi. En plus, elle était décédée à cette époque et on ne s'était jamais dit quoi. Et le fait de le découvrir sur ce courrier, ça a été vraiment un très beau cadeau.
Et prospérer, c'est tellement joli. Je pense que je vais dire ça de mon cadeau. Il est prospère. Voilà, c'est ça. De votre côté, Karine, vous aussi, vous avez avancé. En 2006, trois ans après votre voyage à Alger, il y a déjà une première nouvelle autour de l'accouchement sous X. Ça veut dire que les mots commencent à sortir et quelques mois plus tard, vous allez vous aussi à la DAS. Qu'est-ce que vous, vous y apprenez ?
Je trouve un prénom surtout. Je trouve une lettre de ma mère biologique assez classique. Hein, souvent, ça mentionne le fait qu'il y a une difficulté d'ordre familial, d'ordre économique aussi. Donc, j'apprends qu'elle a 16 ans, qu'elle s'appelle Asia. Puis il y a des propos rapportés aussi. Alors, justement, toute la question, c'est ce que ces propos rapportés, ce sont des informations, mais qui sont rapportées et qu'on ne peut pas forcément vérifier. Mais donc, j'apprends qu'elle est venue, elle est repartie contre avis médical après son accouchement, et que son père est venu la chercher, qu'a priori, c'est lui qui a forcé, mais en tout cas, qui a voulu qu'elle accouche dans le secret. Et que sa mère, à elle, est en Algérie, donc les parents sont séparés, qu'elle a 16 ans et qu'elle est au lycée à Marseille.
Mais à nouveau, vous allez remettre le couvercle, on serre les dents et on avance. On trace même jusqu'en 2019, 16 octobre 2019. Olivier Rousteing est l'invité de Sonia De Villers. Né sous X, il est en promo pour le documentaire qui lui est consacré, Wonder Boy.
T'imagines ? Je pense que ma mère, elle voit... tu penses que quand... Par exemple, quand je fais tous les trucs à la télé, etc., tu crois qu'elle arrive à voir que c'est son fils ? Tu crois que tu peux sentir quelque chose comme ça ?
Voilà une réflexion sur le personnage médiatique que vous êtes devenu absolument poignante. Vous êtes entré dans la lumière pour ça, Olivier Rousteing, pour que elle, cette elle que vous ne connaissez pas, vous voit. Vous êtes sans cesse à l'image pour qu'elle ait une image de vous.
Certainement oui, involontairement, je pense que je recherche en fait qu'elle me voit et pas forcément qu'elle m'entende. Comme peut-être ce matin, en fait, finalement.
Ouais, donc, à la c'est radio.
Voilà, avec vous. C'est une quête personnelle, qui a été que j'ai entrepris depuis que je suis petit, en fait, de vouloir toujours avoir du succès pour rendre déjà mes parents adoptifs fiers et qu'elle se rende compte qu'elle a fait le bon choix.
Qu'est-ce que vous vous dites, Karine Fillot, quand vous entendez ça ?
Je me dis rien, mais je ressens. Ouais. je ressens. Donc il témoigne dans l'émission autour de ce documentaire que je vais voir ensuite. Mais à ce moment-là, je l'ai pas encore vu. Je l'entends à la radio et je comprends cette histoire commune et ce ressenti commun. Et donc les larmes me montent aux yeux. Et il va se passer un truc un peu fou, c'est que je travaille avec une personne, Stéphanie. À ce moment-là, on travaille sur des projets communs de podcast et autres, et c'est la première personne que ce matin je croise là, elle voit tout de suite que ça va pas et je lui dis j'ai écouté une émission, je suis née sous X, elle s'arrête et elle me dit moi aussi je suis née sous X. Et le lendemain il y en a une troisième.
Et alors,
ça ne va pas arrêter.
Non seulement c'est la première fois que vous le dites, mais
en tout cas, à quelqu'un qui n'est pas dans mon entourage proche, quoi. J'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais vraiment à très peu de personnes.
Et là, vous allez le dire à plein de personnes, parce que c'est comme ça que l'idée de ce podcast naît. Vous ne savez pas si un jour vous rencontrerez votre mère biologique, Karine, en revanche, d'autres extraterrestres comme vous, avec qui vous partageriez au-delà d'une lettre, une langue commune, eux, vous allez aller les chercher et les trouver. De votre côté, Caroline, vous avez pris 8 mois de congé sabbatique et de retraite spirituelle en Amérique latine. Pourquoi ? Vous en êtes où de votre quête ?
Alors j'ai été chercher mon dossier à la DAS, j'ai le pourquoi, mais j'ai pas l'identité de cette mère, et j'envoie un courrier au CNOP, justement.
Qui est donc le Conseil National d'Accès aux Origines Personnelles.
Ouais. Exactement, qui est l'étape d'après, après avoir ouvert le dossier à la DAS. Et là je me dis, de toute façon, pareil, ce truc de je tourne rond, à un moment donné, il va falloir que je trouve peut-être un but à ma vie, parce que cette quête de chercher d'où je viens, peut-être que je ne le saurai jamais. Et donc peut-être qu'il va falloir avancer autrement. Donc c'est pour ça que je décide de prendre une pause pour vraiment réfléchir à qu'est-ce que j'ai envie de faire pour la suite, quoi.
Votre décision, vous allez la prendre assez rapidement, en fait, puisqu'un an plus tard, vous décidez à faire un test ADN. Décision difficile à prendre.
En fait, c'était la dernière option, la dernière possibilité pour trouver mes origines. Et puis en plus, je suis sur les réseaux sociaux, je vois que de plus en plus de nés sous X retrouvent leur lien de filiation grâce à ce test ADN. Et je me dis que c'est le dernier espoir. Et surtout, quand je reviens aussi de mon voyage en Amérique latine, je reçois la réponse du CNAOP qui me dit « en fait non, on clôture votre dossier parce qu'on n'a rien ». Voilà.
Et donc l'étape d'après, c'est en effet le test ADN qui est là, vraiment la seule possibilité pour essayer de trouver au moins cette identité raciale, quoi.
Ouais. Savoir à quel groupe humain vous appartenez, ou du moins d'où est-ce que vous êtes parti, en quelque sorte.
Est-ce que je viens du Brésil ? Non, mais c'est vrai. Est-ce que je suis noire, blanche ?
Et vous la retrouvez grâce à ce test.
Exactement. Ce qui est incroyable, c'est que je fais ce test ADN. Je suis aidée d'une généalogiste et on la retrouve.
En 2021, vous partez à nouveau direction Compostelle, pèlerinage de 3 mois. Et c'est au terme de ce voyage que vous décidez à appeler votre mère biologique. La rencontre a donc lieu en vrai.
Exactement.
Je n'ose imaginer dans quel état vous étiez avant, pendant, après. Dites-nous, ça se passe comment ?
C'est incroyable. Mais en fait, c'est fou parce que c'est tout ce dont on a toujours rêvé qui arrive là. Je me rappelle faire de la méditation, respirer.
Est-ce qu'il n'y a pas du coup un énorme risque de déception ? Parce que de toute façon, le réel est toujours déceptif, quels que soient nos rêves.
Alors, moi, il faut savoir que j'imagine toujours le pire.
Ah d'accord.
Voilà. Comme ce fameux dossier à la DAS, c'est vrai, j'ai toujours imaginé qu'elle était morte ou qu'elle était folle. En fait, j'ai toujours imaginé la pire option. Et donc, du coup, j'avais pas forcément de désir, mais sachant qu'avant que je la rencontre, je l'ai au téléphone. Et déjà, au téléphone, elle me fait j'ai une impression incroyable. J'ai l'impression de la connaître. Elle a une voix hyper dynamique. Les premières minutes que j'ai avec elle au téléphone, justement, où je commence à tomber dans l'émotion, j'ai envie de pleurer, je me sens pas bien. Elle me dit, respire. C'est bête, mais respire.
Ouais, un mot très maternel.
Exact.
Ouais.
Et là, je me suis dit, ouais. En fait, c'est sûr que ça va bien se passer, quoi. Mais en effet, c'était incroyable de la voir. Et en fait, j'avais vraiment l'impression d'avoir un autre moi devant moi. C'était très bizarre comme sensation.
Ouais. Une autre rencontre va jalonner votre route, Caroline. En fait, cette rencontre, c'est la vôtre, à toutes les deux. Écoutez.
Caroline attend que ses collègues quittent la pièce. Elle ferme soigneusement la porte, s'assoit en face de moi pour me parler. Je n'en crois pas mes oreilles et je sors mon smartphone.
T'as annoncé que tu étais née sous X, voilà, que tu montais un podcast justement sur la recherche d'origine et sur l'identité. Il y a un an, tu ne le disais pas. Ouais. Et là, tu le dises comme ça, aussi ouvertement, à un déjeuner d'entreprise, dans un grand cabinet de conseil en stratégie. Ah ouais, moi, je n'osais même pas y regarder. J'ai porté mon masque, genre, je l'écoute, je ne pose aucune question. Je fais genre, ça ne me touche pas.
Et là, tu t'es pas dit, j'allais le dire, c'était...
Ah non, non.
Donc, tu es...
Né sous X.
Vous allez, vous aussi, Karine, cheminer à travers ces rencontres, les unes après les autres, et vous vous mettrez à... vous déciderez à toquer à la porte du CNAOP, sachant que dans 30% des cas seulement, les démarches entamées par des enfants nés sous X débouchent sur une levée du secret. Vous nous direz dans quelques minutes où vous en êtes l'une et l'autre.
En marge. Sur France Inter.
Karine Fillot, vous en êtes où de vos recherches aujourd'hui, au moment où on se parle ?
Alors, comme Caroline, j'ai succombé à la tentation du test ADN.
Ouais.
Donc, j'ai appris des choses complémentaires à mon dossier que j'avais consulté à la DAS.
Succomber à la tentation, il y a quelque chose de l'ordre de l'interdit, du transgressif.
Ah concrètement,
alors,
c'est interdit
en France parce que ça pose des questions d'ordre éthique, c'est ça, officiellement ?
Oui, c'est ça, tout à fait. Donc, il n'y a plus que la France et la Pologne aujourd'hui qui maintiennent l'interdiction. Donc, l'interdiction, c'est à la fois pour les personnes de faire des tests à l'étranger, voilà, et du coup en France, à des laboratoires, de faire des tests encadrés. Et qu'est-ce qu'on apprend ? On apprend effectivement ses origines ethniques, donc avec des pourcentages, et j'ai appris il y a 2 ans maintenant, 100% Algérie, Kabylie. Voilà.
Vous en avez les yeux qui brillent, parce que ça résout au moins quelque chose ?
Avec ce qu'on apprend dans les dossiers, ce qu'on apprend après avec les tests ADN, on se refait un peu le film des choses.
Ouais.
Moi, je savais, donc il était écrit dans mon dossier, ce serait des Kabyles, en parlant de ma mère biologique et de son père. La mère vivrait en Algérie, donc j'ai vite compris que du côté de ma mère de naissance. Mais moi, je me suis aussi posé la question, parce qu'on m'a souvent dit, citer tous les pays de Méditerranée pour dire d'où je venais. Ça devient un jeu maintenant, c'était pas avant, mais je dis, mais tu viens d'où ? Je dis, toi, tu penses que je viens d'où ? Parce que moi j'en sais rien, donc c'est vraiment le jeu des... Et donc maintenant je peux plus le faire parce que je sais 100% Algérie, donc je comprends aussi que mon père de naissance, dont je ne sais absolument rien, donc je connais pas non plus le contexte en fait de ma conception, je comprends aussi que ça vient de là. Donc ça, c'est le test ADN qui me l'apprend.
Et donc il faudrait aller plus loin pour connaître l'identité d'Aïssa, pouvoir la retrouver. Donc là, c'est soit généalogiste, soit détective privé.
Et donc je suis en train de le faire. J'ai un match à 2,51 avec la généalogiste qui a accompagné aussi Caroline.
Mais j'imagine que la question vous traverse de vous dire peut-être qu'elle n'a pas du tout envie. Peut-être que j'ai, peut-être que c'est ça qui vous a retenu aussi toutes ces années, de vous dire je vais peut-être arriver dans une famille, dans un contexte ou dans la vie d'une femme. Je ne sais pas ce que, ce que ça va lui faire.
Savoir, c'est une chose, et après, chercher une relation, c'est autre chose. J'ai eu l'impression, en discutant après avec les autres personnes, des soucis, que j'ai fait un peu les choses dans le désordre. C'est-à-dire que j'ai succombé au test ADN avant même de faire le CLAOP.
Ouais.
Et en fait, le CLAOP, je l'ai fait seulement il y a 14 mois, aujourd'hui, donc j'attends toujours la réponse. Pourquoi ? Parce que je pense que le CLAOP, donc on demande en gros à cette institution d'essayer de retrouver. Et si la mère biologique ne veut pas lever le secret, ben ça peut être très violent. Autant la première fois quand on est et qu'on est abandonné, c'est un abandon. Mais si la mère refuse...
C'est un rejet.
Exactement. Moi, c'est ce mot-là que j'utilise. D'un côté, c'est un abandon, et de l'autre côté, c'est un rejet. Alors que l'abandon n'est pas un rejet. En tout cas, certainement, souvent, c'est pas un rejet de nous, c'est un rejet de la situation, c'est un abandon plus qu'un rejet au moment de la naissance. Donc, il y avait ce risque-là, et du coup, je l'ai sans doute pas fait à cause de cette peur-là de me dire, et si elle dit non, en fait. Ouais. Avec le test ADN, c'est différent parce qu'on passe pas par une institution, c'est nous qui décidons de ce qu'on en fait. Et donc, pendant 2 ans, j'en ai presque rien fait de ces 2,51% de ce match en commun. Et là, ça y est, je commence à en faire quelque chose, mais forcément aider, parce que quand on est seul, on se dit mais je fais quoi ? D'abord, je sais pas si cette personne que j'ai identifiée, une femme née en 1969, est-ce que elle est du côté du père ou est-ce qu'elle est du côté de la mère ? Ça, on le sait pas. Comment démarcher ces matchs qu'on a ? Il y avait aussi des hommes dans mes matchs à 1,81. Alors 2,51, ça commence à être signifiant. À partir de 1,50, okay. On pourrait trouver. Mais j'arrive, je discute. Comment je raconte que je connais pas mes origines ? Comment je raconte ? Si ça se trouve, il y a ce secret. Si ça se trouve, le père biologique, il ne sait même pas que j'existe. Donc, c'est plutôt la méthode aussi de comment procéder, qui pose question et qui se dit comment je vais faire ? Quel mot je vais utiliser ? Par quelle personne je vais passer pour y arriver ? Pour pas que ce soit frontal.
Toutes ces questions, vous êtes déjà en train de les poser dans la deuxième saison de votre podcast que vous êtes en train de fabriquer. On va bientôt se dire au revoir. On va se quitter sur un objet qui vous est cher à toutes les deux. Et ce qui est très drôle, c'est que vous avez choisi le même. Est-ce que vous pourriez nous dire de quoi il s'agit ?
Bah, c'est notre carnet de santé.
Vous l'avez encore avec vous. Vous savez, ils sont ces carnets de santé à la couverture bleu marine et un petit bandeau bleu clair. Je pense que ça va parler à beaucoup de monde. La couverture de celui de Karine est en train de se déchirer.
C'est comme ça que j'ai découvert, mais il y a pas longtemps en fait, il y a 2 ans, puisqu'il était recouvert, qu'en fait X Marie-Christine était notée dessus. Alors que bah, à l'intérieur, c'est ma mère d'ailleurs qui l'a écrit, Fio, Karine, Cécile, etc. Donc j'ai découvert qu'en fait, on m'a donné le nom de X à ma naissance et qu'il est écrit matériellement sur ce carnet.
Et très rapidement, c'est quoi pour vous ce carnet, s'il y avait un mot pour le définir ?
C'est le début d'une histoire qui pour l'instant n'est pas encore totalement résolue.
Pour moi, c'est
parce que Caroline n'a pas encore identifié son père de naissance aussi.
C'est pas fini.
Pour moi, quand on pense que c'est fini, ça l'est pas.
Des quêtes à l'infini à chaque fois qu'on a une réponse et une question, ça ouvre une autre question, c'est ça, Caroline ?
C'est exactement ça. Avec du temps, entre chacune.
Surtout pour Caroline.
Et combien de tours du monde, Caroline ? Vous allez faire combien de voyages ?
C'est vrai que je tourne un peu autour de... Je vais devoir repartir.
En marche, c'est terminé pour ce soir. Nos chez nos invisibles, c'est le nom de votre podcast en 6 épisodes sur votre plateforme, Elson, Karine Fillot. Podcast où on pourra entendre toute votre histoire aussi, Caroline Beaurepaire. Un grand merci à toutes les deux. Merci à toutes, à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir.